a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire L'Amérique et vous. Nathalie Barge pour vous accompagner dans cette discussion sur un sujet qui nous concerne tous et qui nous stresse beaucoup, qui nous inquiète beaucoup actuellement, c'est dans le monde, et bien oui, le Covid-19. Sachant que le président américain Donald Trump a annoncé la suspension pour 30 jours de tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis. Et il est à suivre d'ailleurs une conférence de presse dans laquelle il pourrait éventuellement déclarer l'état d'urgence. Alors son homologue sénégalais Macky Sall a appelé les pays africains à s'unir contre la propagation du virus mortel. L'Afrique ne doit pas être le nouveau foyer de la maladie, a-t-il déclaré. Alors comment empêcher la propagation de ce virus en Afrique, et les restrictions de déplacement internationaux sont-elles nécessaires? Alors, en ce qui concerne les États-Unis, il s'agit d'une interdiction temporaire imposée aux voyageurs revenant d'Europe pour les États-Unis. On va essayer de voir aussi quelles sont les stratégies employées pour gérer la situation sur le terrain dans chaque pays, enfin en tout cas dans certains pays, et pour en parler et pour savoir aussi comment gérer la situation au plan humain, parce que ça devient aussi très important. Il y a la psychose qui s'installe un peu partout sur cette planète. La population subit actuellement une sorte de choc psychologique, si l'on peut dire, surtout en Italie, pays où l'on est actuellement coupé de tout à cause des mesures draconiennes de quarantaine. Situation oblige. Nous avons comme invité le coordonnateur des programmes africains au sein de Radio Vatican, le père jésuite Jean-Pierre Bodjoko, originaire de la République démocratique du Congo. Alors, donc, il est en Italie. On sait que l'Italie a enregistré jeudi son 1000e mort. Père Jean-Pierre Bodjoko, bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir, sinon je vais bien, on tient encore malgré le coronavirus.
Alors merci beaucoup d'avoir accepté donc de participer à cette émission. C'est le sujet du jour. On va revenir vers vous après parce qu'on a aussi d'autres invités, notamment l'expertise de médecins africains qui pourraient aussi apporter l'expérience de la lutte contre d'autres virus et des moyens utilisés ou envisager pour éviter que le nouveau coronavirus ne se propage sur le continent. Père Bodjoko, restez avec nous. Nous avons en ligne également Dr Francine Ametonou, qui est à Bangui et qui est donc membre de l'Organisation internationale Médecins d'Afrique. Dr Ametonou, bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir, je vais très bien, merci pour l'invitation.
Merci beaucoup également d'avoir donc accepté cette invitation. Alors on va essayer de dresser un petit peu un plan de la situation. Ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique, c'est le monde, c'est l'Italie, c'est un petit peu partout maintenant. On est tous liés, n'est-ce pas? Donc je reviendrai vers Jean-Pierre Bodjoko par rapport à l'Italie. On a envie de savoir, bien entendu, dans un premier temps, Père Bodjoko, comment est gérée la situation là-bas, on va dire? La première chose qui m'intéresserait, c'est sur le plan humain, c'est la population. Vous qui avez du contact avec la population, entre autres, comment la population supporte-t-elle cette crise actuelle en Italie?
Disons que la population est dans la peur de la maladie, et aussi la population est dans la panique. Pourquoi? Puisque d'un côté, il y a la maladie, et de l'autre côté, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour essayer de stopper cette maladie. Évidemment, la maladie fait peur à tout le monde, puisque quand on parlait encore de la maladie à distance, disons en Chine, on se disait mais que c'est encore loin, mais quand ça commence à s'approcher d'abord au nord de l'Italie, voilà, bon, les gens qui sont au centre ici et au sud se disaient, bon, c'est encore un peu loin. Maintenant que c'est généralisé, les gens, la population vit vraiment dans la peur. Dans la peur, d'autant plus que les mesures prises aussi par le gouvernement obligent les gens à vivre chez eux, à être enfermés chez eux. Et c'est comme, qui dirait, une prison à ciel ouvert, malgré la maladie. Et ça, c'est un peu la situation qui se vit ici. Donc, on ne peut plus sortir de chez soi, ou si on sort, c'est à certaines conditions. Et on doit pratiquer des mesures d'hygiène, et ça c'est d'abord le premier point sur lequel le gouvernement a insisté, donc c'est laver les mains à tout moment. Et je peux vous dire que parfois on arrive le soir, les mains sont plutôt sèches, parce qu'on fait tellement laver les mains qu'on est fatigué à se laver chaque jour comme ça.
Absolument.
Voilà, et les contacts humains sont devenus très difficiles. Il faut, on suspecte tout le monde. On ne peut plus même pousser un tout petit peu, sinon tout le monde te regarde avec étonnement.
Ouais.
Voilà la situation générale.
Alors c'est ça qui est intéressant, parce que finalement c'est également cette psychose qui s'installe de manière virale dans le monde. Finalement, comme vous le dites, on est un petit peu regardé de travers, on se regarde bizarrement, et finalement les relations tendent à changer. Et vous, votre travail, bien entendu, l'Église, c'est d'éviter à ce que ces relations humaines, ces relations chaleureuses, bien entendu, changent. On va revenir vers Francine Ametonou, mais nous avons également ligne Alain Bikindou, qui est également docteur. Il est à Brazzaville et il a beaucoup travaillé sur la crise Ebola. Il est de la même organisation, Médecins d'Afrique. Docteur, bonsoir, comment allez-vous?
Oui, je vais bien, bonsoir.
Alors un grand merci également d'avoir accepté de participer à cette émission, parce que j'ai eu beaucoup de mal à vous joindre tout à l'heure et vous avez gentiment accepté directement en direct d'y participer. Alors on va continuer par vous, docteur Bikindou, à Brazzaville. Bon, la crise Ebola, vous avez travaillé dessus. Est-ce que l'on adapterait à cette crise les mêmes gestes en matière de prévention que ceux-là qu'on a adoptés pour la crise Ebola?
Oui, pratiquement, c'est les mêmes mesures de prévention qu'on peut adapter à Ebola comme à coronavirus. D'abord, les deux sont des viroses. Et donc, tant dans la communauté, avec les mesures d'hygiène, de lavage de mains privées, que dans les formations sanitaires, dans la prévention et contrôle de l'infection, c'est pratiquement les mêmes mesures que l'on peut adopter.
Alors, docteur Francine Ametonou à Bangui, alors vous travaillez sur des programmes justement de prévention, parce que bon, ce qui est intéressant et ce qui est bien, c'est une bonne nouvelle pour une fois, on va dire pour la Centrafrique, le virus n'est pas là-bas, donc il faut tout de même justement suivre des mesures de prévention. Donc docteur, comment vous procédez notamment pour former les gens et pour adapter ces programmes de prévention?
Oui, alors tout d'abord, je salue mon confrère du Congo Brazzaville et évidemment d'autres invités de l'Italie. Alors, comme vous l'avez dit, on est tous donc connectés, et même si effectivement on n'a pas encore de cas déclarés en Centrafrique, on suit exactement ce qui se passe dans le monde et on sait ce qui se passe et on fait tout pour que la maladie ne se propage pas en République centrafricaine. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de mouvements entre le Cameroun et la RDC, la Centrafrique. Il y a eu déjà des cas déclarés dont le gouvernement et les associations, les ONG sont assez d'aides pour pouvoir donc mettre en place des mesures de prévention.
Alors,
donc notre rôle à nous...
Oui, allez-y, continuez, je vous en prie.
Oui, donc notre rôle à nous, c'est de travailler essentiellement donc avec la communauté. On appuie le gouvernement dans ce sens, donc des commissions sont déjà mises en place. Et nous, à Médecins d'Afrique, on a d'abord commencé par former notre staff. Mm-hmm. Donc le staff qui est à Bangui, mais aussi le staff qui est dans toutes les régions, donc à l'intérieur du pays. Donc former, c'est-à-dire les informer sur ce que c'est que le coronavirus. Et la grande nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement la majorité savait ce que c'est. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, via la télévision, via la radio, en tout cas, tout le monde a déjà entendu parler de ce virus. Mais il y avait encore quelques questions sur donc, comment est-ce que la maladie se propage et comment il faut faire donc, pour pouvoir se prévenir. Et c'est sur ça que l'on travaille. Donc, le collègue parlait de lavage des mains, donc c'est vraiment la première des choses à faire. Donc, on leur a expliqué qu'il fallait se laver les mains plusieurs fois par jour. Mais il y a en effet d'autres mesures de prévention entre si jamais effectivement vous avez quelqu'un qui a des symptômes, il ne faut pas hésiter à consulter avec un médecin ou à nous faire part, nous, au niveau de l'ONG, les différents symptômes qu'il peut y avoir pour qu'on puisse les orienter. Donc, notre rôle, c'est avec effectivement les autres ONG, les autres organisations, de voir en sorte de voir ce que nous pouvons faire pour entrer dans la communauté, pour aller dans les villages, pour discuter avec les gens, pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est le coronavirus et comment il faut se prévenir.
Alors je voudrais revenir vers Jean-Pierre Bojoko au Vatican parce qu'il doit nous quitter un petit peu plus tôt que nos deux médecins, n'est-ce pas, pour participer à une autre émission de VOA Afrique. Alors, Père Bojoko, est-ce qu'il y a des directives du Vatican pour l'Église dans tous les pays du monde? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières par rapport à cette crise, à ce virus universel?
Disons que même si la pandémie est universelle maintenant, l'Église n'a pas encore édicté de mesures universelles. Mais l'Église a édicté des mesures un peu en tenant compte de la gravité d'abord de la situation qui se trouve en Italie. Mm-hmm. Et par exemple, au sein même du Saint-Siège ou du Vatican, il y a des mesures qui s'imposent. Par exemple, pour les gens qui travaillent au Vatican, dans les dicastères, on a demandé de laisser, par exemple, les gens qui n'ont pas encore pris leurs vacances, de rester à la maison, pour ceux qui ont des enfants, de rester à la maison. Et dans les dicastères, on demande aussi aux gens de ne pas être dans plus de deux dans le même bureau. Ça, c'est au niveau un peu administratif. Tandis que pour ce qui concerne maintenant la pratique religieuse, on a essayé de suivre un peu les indications du gouvernement italien qui demande qu'on ferme, par exemple, avant, on a décidé de fermer les églises, maintenant, on permet aux églises d'être ouvertes, pas pour les touristes, puisque souvent, on ouvre aussi les églises pour les touristes, mais pour les gens qui veulent, dans ces moments difficiles, d'aller, disons, avoir le temps de prier et de méditer. Et ça, le Saint-Siège ou le Vatican, en accord avec la conférence épiscopale italienne, a trouvé que c'est bon de laisser les églises ouvertes, pas pour les touristes, mais pour les gens pour prier. Pour le reste, l'église essaie d'être proche des gens. Par exemple, le pape a demandé mardi aux prêtres d'avoir le courage de sortir et d'aller visiter les malades et d'accompagner même le personnel médical et les bénévoles. Voilà, ça c'est un peu la proximité que l'église essaie d'avoir dans ces moments difficiles.
Par simple curiosité, mon père, alors l'on sait que le pape est sans doute l'une des personnes les plus protégées du monde. Est-ce que vous pourriez nous citer, nous décrire certaines mesures qui ont été prises, justement des mesures supplémentaires, afin qu'il ne contracte pas ce virus?
Mais justement, les gens avaient même écrit, et certains journaux, certains médias avaient écrit que le pape était peut-être atteint de coronavirus, puisque il y a une semaine, un peu plus, il devait faire sa retraite spirituelle avec l'ensemble de la curie romaine. Il n'a pas pu aller puisqu'il avait seulement un rhume. Alors les gens commençaient à interpréter en disant que probablement le pape avait un rhume. Alors il a décidé de rester chez lui et de faire la retraite chez lui. Mais on l'a vu il y a quelques temps, on sent qu'il va bien, il continue à travailler. Mais en respectant aussi, il a reçu dernièrement les évêques français, on a vu qu'il était avec eux, mais il garde toujours sa distance comme on demande un peu. On ne peut pas être trop proche de lui pour éviter, comme tout le monde, quoi, puisque le pape, bon, il faut dire qu'il a quand même un certain âge, il a déjà dans plus de 80 ans, on doit quand même tenir compte de ça, et sur le médecin lui conseille quand même aussi de respecter certaines règles maintenant.
Docteur Alain Bikindou, alors, l'on sait qu'en Afrique, on n'a pas encore vraiment adopté des méthodes de confinement ou autre. Bon, ça commence petit à petit, et on ne peut pas s'empêcher de penser penser aux mégapoles en Afrique et surtout sachant que c'est un continent où les rassemblements sont très courants, les rassemblements ont une très grande valeur culturelle et économique. On a les grands marchés, on a les grands rassemblements religieux, on a toutes ces mégapoles, notamment Lagos, le Caire, on peut parler de Kinshasa. Alors en matière de prévention, préparation, est-ce que quelque chose est envisagé? Bon, à l'échelle nationale, si on peut citer certains pays, après à l'échelle régionale, voire à l'échelle du continent.
Et bon, je connais bien mon pays, donc le Congo-Brazzaville. Mmh. Au Congo-Brazzaville, des mesures de prévention sont prises, notamment dans les milieux où les gens peuvent se retrouver, d'observer l'hygiène, notamment dans le lavage des mains, partout dans toutes les administrations, dans les écoles, les points de lavage de mains sont en train d'être installés. Surtout que en face de nous, notamment à Kinshasa, il y a déjà un cas positif. Et Kinshasa-Brazzaville, c'est 5 minutes de traversée. Et donc le flux de la population, il est très régulier entre les deux capitales. Et donc, des mesures de prévention sont prises, non seulement aux frontières, mais aussi dans les administrations. Ça s'installe déjà, bien que Brazzaville n'a pas encore de cas avéré. Mais dans les églises, comme j'ai suivi tout à l'heure le révérend prêtre qui a parlé, dans les églises aussi, les mesures sont en train d'être prises. Je pense que ça ne sert à rien d'apeurer les gens. En toute riposte à une épidémie, il y a la version socioculturelle qu'il faut aussi prendre en ligne de compte. Sinon, c'est le désastre aussi que les gens peuvent être apeurés et avoir une psychose.
Ouais. Mais alors, tout de même, docteur Francis, admettons-nous, le président sénégalais Macky Sall donc, a appelé les pays africains à s'unir pour lutter contre le virus. On sait également que les frontières en Afrique sont extrêmement poreuses. L'on sait que les déplacements sont vraiment phénoménaux, hein, notamment avec les crises économiques et les conflits armés. Donc, est-ce que vous pensez effectivement que, que les pays doivent vraiment entamer une coordination entre eux sur le continent africain, et est-ce que cela est déjà entamé ou pas?
Alors, déjà, par rapport aux différents pays, je pense qu'il y a des mesures qui sont prises, mais en partenariat avec l'OMS. Et l'OMS se trouve dans pratiquement tous les pays. Le siège, il y a un siège qui se trouve à Dakar. Et c'est l'OMS qui coordonne toutes les activités, tout ce qu'on doit mettre en place. Donc, c'est l'OMS qui nous dit voilà ce qui se passe, et voilà les derniers chiffres, et voilà effectivement ce qui pourrait être amené à être fait au niveau de la prévention. Donc ça, c'est déjà un point important que tout le monde est aligné sur les recommandations de l'OMS. En dehors de ça, et ce qui s'est passé au niveau de l'épidémie d'Ebola, les pays africains se sont réunis pour pouvoir décider ensemble de ce qu'il fallait être mis en place par rapport à cette maladie. Je pense que pour le moment, chaque pays est en train de mettre en place à son niveau des actions pour pouvoir réduire donc la contamination au sein des différents pays, ce qui n'empêche pas, et là je ne peux pas effectivement parler par rapport à la place des néo-dirigeants ici en RCA, mais ce qui n'empêche pas que les différents pays se mettent ensemble pour pouvoir donc discuter des différentes stratégies à mettre en place. Et je suis sûre que ce qui est en train d'être fait, en sachant donc que les frontières, comme vous l'avez dit, sont très poreuses, et on ne peut pas les fermer, ce serait quand même assez difficile. Il y a différents points donc, d'entrée et de sortie des personnes donc, entre les différents pays. Et ça va être très, très compliqué. Par contre, des mesures sont mises en place, comme par exemple ici à Bangui, au niveau de l'aéroport, effectivement, toute personne qui entre est on prend la température, donc comme dans tous les pays d'ailleurs, pour savoir si effectivement si cette personne fait de la fièvre ou pas, et si la personne doit être mise de côté pour être surveillée. Ce qui a déjà été le cas, il y a eu quelques personnes qui ont été mises en surveillance et qui ont été ensuite rendues libres quand on s'est rendu compte qu'effectivement il n'y avait pas de risque de contamination. Donc ne serait-ce que ça, je pense que les pays effectivement sont en contact pour pouvoir mettre en place différentes mesures de prévention et effectivement les informations sociales donc de pays à pays pour savoir quelles sont les mesures qu'il faut prendre.
Je voudrais revenir vers Jean-Pierre Bodjoko avant qu'il nous quitte. Père Bodjoko, je pense que vous voulez dire un mot sur la solidarité internationale. Notamment, vous m'avez parlé tout à l'heure de la Chine envers l'Italie, de cette question de solidarité. On est toujours dans le côté humain, mais là, au niveau international.
Et voilà, ça c'est au niveau de la solidarité internationale. Je voudrais aussi rappeler une chose, que tout au début de la maladie en Chine, le Saint-Siège avait envoyé des masques à Wuhan, justement. C'était déjà un premier geste du pape pour marquer la solidarité internationale. Et dernièrement, c'était hier d'ailleurs, jeudi, que la Chine a envoyé tout un avion avec à peu près 7 médecins et des matériels pour aider l'Italie à affronter, disons, la lutte, disons, pour combattre la pandémie du nouveau coronavirus. Et ça, c'est vraiment un geste de la Chine qui a été apprécié par le peuple italien, qui un peu, disons, commençait à dire, voilà, nos frères de l'Union européenne ne nous ont pas beaucoup aidés matériellement, mais nous savons que nous avons des amis en Chine. Voilà, ça c'est déjà un peu le premier geste pratique, puisqu'il faut dire que les hôpitaux ici en Italie sont saturés et il n'y a pas beaucoup de matériel, il n'y a pas beaucoup de masques et ça fait problème, effectivement. Et ils ont besoin de médecins, à tel point qu'ils ont rappelé à peu près 20 000 médecins. Je salue en passant les deux médecins de Centrafrique et du Congo qui sont là. Et donc, ils ont fait appel aux médecins qui étaient déjà en pension pour venir porter secours dans des hôpitaux, pour dire que cette solidarité d'abord nationale et puis internationale, on en a tous besoin. Et mon souci maintenant, rapidement avant de vous quitter, c'est de voir si maintenant la maladie se répandait sérieusement sur le continent africain, comment est-ce qu'ils vont affronter ça, est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires pour disons, affronter la maladie en Afrique. Il faut beaucoup de prévention, mais quand la situation sera là, il faut vraiment une grande solidarité internationale.
Alors justement, je me retournerai en fin d'émission vers Alain Bikindou, en quelque sorte, pour répondre à votre question. Jean-Pierre Bodjoko, coordonnateur des programmes africains au sein de Radio Vatican, un grand merci et surtout bon courage pour la suite en Italie. Alors Alain Bikindou, docteur Alain Bikindou, vous avez entendu Monsieur Bodjoko sur cette question. Est-ce que l'Afrique, si vraiment la pandémie venait vraiment à s'étendre sur le continent, est-ce que l'Afrique pourrait y faire face? Vous-même, vous avez beaucoup travaillé pour Ebola. Donc, quelle réponse vous apporterez à cela?
Oui, ce ne serait pas un souhait que vraiment cette pandémie arrive en Afrique avec la même fréquence qu'on a vu en Chine, qui a construit un grand hôpital de plus de 1500 lits en moins de 10 jours, et où en Europe, où le plateau technique est très évolué. Mais en Afrique, tout aussi, les complications savaient s'installer, notamment les complications qui auraient besoin de matériel beaucoup plus sophistiqué tel que les respirateurs. Là, ce serait un peu une catastrophe. Donc, c'est vraiment de la solidarité internationale qu'il faille mettre en héberge pour que au moins ces plateaux techniques soient équipés afin que ces patients qui présenteraient des complications puissent être pris en charge. Pour ce qui est du personnel, oui, le personnel il est formé, mais est-ce que le nombre du personnel que nous avons et les capacités des formations sanitaires peut répondre à une flambée du genre de ce qu'on a vu en Chine ou en France ou en Italie? Je ne pense pas.
Un grand merci, docteur Alain Bikindou. Un grand merci également à docteur Francine Ametonou à partir de Bangui. Le docteur Bikindou était à Brazzaville et nous avions également Jean-Pierre Bojoko qui est au Vatican. Un grand merci à toutes et à tous. Restez à l'écoute de VO Afrique pour la suite de nos programmes.